Maman, n'oublie pas que ton nom est un miracle, que ton rôle dans la société est déterminant, qu'il en faut du courage pour braver la supériorité supposée des hommes, que de ton seul sexe peut naître des révolutions, que tu peux braver les tabous en levant le poing, que tu peux oser être la femme que tant ont rêvé avant toi en pestant contre leur impuissance. Ton nom est un miracle, maman. N'hésite pas à hausser le ton, à faire vibrer ta voix, à crier ton existence, car ta féminité n'est pas un fardeau, elle est ta force. Une force qui brûle loin des bûchers où jadis on t'aurait jeté. Les pierres que tu érigeras ne se retourneront plus contre toi. Et ton nom évoquera un futur meilleur. Le Messie peut bien aller se rhabiller, maman. C'est de toi que j'attends le miracle. Maman, Forgot Her Name Was Miracle, c'est le nom du dernier album de la compositrice, musicienne et chanteuse Mélissa Lavo, qui revient en force avec un album afro-pop-rock et coloré où elle érige une mythologie sélective de femmes qui ont porté et portent en elles les bouleversements féministes à venir, entre onirisme et sagacité. Elle sera sur la scène de la Cigalière le vendredi 27 janvier à 20h30 pour la 12e édition du festival Chants d'hiver et de femmes dédié aux artistes féminins. Je suis actuellement au téléphone avec Mélissa Lavo. Bonjour.
Bonjour.
Dans votre démarche créative, est-ce qu'il y avait une intention pour vous de communiquer, voire de communier avec les célèbres défuntes dont il est question dans votre album ?
Oui, je pense que tout le monde a un peu son panthéon personnel d'esprit, d'ange gardien. Et en fait, voici quelques-uns des miens. Et du coup, j'avais juste envie d'avoir un sorte de songbook, un répertoire qui est émancipatoire et donne envie de faire des choses qu'on ne s'autorise pas à faire.
Donc c'est un peu comme des héroïnes qui veilleraient sur vous au quotidien ?
Oui, oui, tout à fait.
Est-ce que dans chacune d'entre elles, il y a des fragments, on pourrait dire, de votre personnalité ?
Je pense que oui, parce que c'est dur de... Je pense que c'est plutôt facile d'avoir une affinité pour une histoire, d'avoir une affinité pour un personnage historique, pour quelqu'un qui a créé, fait bouger des choses. Et quand on arrive à s'y reconnaître, c'est la manière dont on a de, en tant qu'humain, on est assez basique. On a tendance à pouvoir relationner avec des gens qui ont des points en commun. Et en fait, moi, j'arrête pas pour essayer de garder ma paix, comme on dit. C'est de trouver ce que j'ai en commun avec ma prochaine et mon prochain. Et en fait, de pouvoir sympathiser et pouvoir empathiser avec les gens. Et la manière dont je suis parvenue à écrire sur toutes ces personnes, c'est parce que j'ai trouvé un peu de moi et où j'y trouvais des choses que j'aimerais faire, des choses que j'aimerais, des manières de trouver une solution à un problème qui sont assez créatives et que je trouve hyper admirables et des valeurs que j'aimerais m'approprier aussi. Et je trouve qu'il y a de quoi apprendre, quoi.
Complètement. Parmi les femmes qui auraient pu figurer à votre panthéon, on peut évoquer la pucelle de Doremi, soit Jeanne d'Arc. Et vous avez écrit sur les réseaux sociaux que vous voyez en elle une sorcière qui connaissait les herbes nécessaires pour se connecter au monde des esprits et qui a réussi à rendre concret ce qu'elle a annoncé, qui a enfreint les lois de son époque pour faire ce qui lui semblait juste et qui s'est rêvé et frayé un chemin de vie si atypique qu'elle a changé la destinée de son pays.
Oui, tout à fait. Je trouve qu'il y a une des définitions de la sorcellerie ou d'une sorcière, c'est quelqu'un qui arrive à rendre concret ce qui a été dit, que la parole est créatrice. C'est quelqu'un qui a une parole créatrice. Et en fait, on a tous et toutes des paroles créatrices. Mais en particulier, Jeanne d'Arc, elle avait carrément fait une prédiction. Elle avait des pouvoirs divinatoires et elle disait qu'on lui avait murmuré à l'oreille ce qui allait se passer. Et du coup, genre, c'est complètement, à l'époque, c'était complètement quelque chose de... Comment est-ce qu'on peut dire c'était païen. C'est tout à fait païen. Alors qu'il s'agit de quelqu'un de très catholique et du coup, elle ne voyait pas de séparation entre ses croyances chrétiennes et et les esprits, en fait. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais quand on fait une lecture de l'histoire de Jeanne d'Arc en n'utilisant que les faits, on est devant quelqu'un qui aurait très probablement été quelqu'un qui utilisait les stupéfiants pour avoir des révélations, en fait. Et je trouve ça assez cool. En plus, elle a réussi. Donc, genre, la preuve en est qu'elle avait raison, en fait. Et tout le monde qui arrête pas de dire qu'elle était folle, ben, en fait, n'avait pas raison. Et pour ça, justement, quand elle a été mise au bûcher, c'est un peu l'histoire typique des sorcières aussi sur le continent européen. C'est damned if you do, damned if you don't. Donc, on va voir si c'est une sorcière, on va la mettre dans l'eau. Si elle nage, on la brûle parce que c'est une sorcière. Si elle sait pas nager et elle coule et elle se noie, ben elle sera morte. Ce sera pas une sorcière. Donc, on est sur le même truc. Si Jeanne d'Arc avait échoué dans ce qu'elle avait dit. Ben, on l'aurait brûlée, on aurait dit, ah, quelle femme hérétique qui porte des vêtements d'homme, blablabla. Et puisqu'elle a réussi, ben, on l'a mis au bûcher.
Il y a 13 titres qui traversent votre album et donc chaque titre correspond à une femme en particulier. Vous avez aussi un titre qui concerne justement les sorcières dans Half a Wizard et Half a Witch où justement vous réincitez sur le fait que les sorcières peuvent représenter l'entraide, le soin et autres. Vous avez un autre titre en featuring avec Oxmo Puccino qui est assez étonnant. Comment se sont rencontrés vos deux univers?
Eh bien, j'avais déjà écrit le titre et moi j'ai choisi de quand ma manageuse m'a proposé pense à des gens que tu voudrais inviter. J'ai pensé à Oxmo parce que c'est un des rappeurs français qui a travaillé avec des gens dans mon cercle de créatifs avec qui j'ai les Jazz Bastios avec qui j'ai fait deux albums qui avaient réalisé deux de mes albums et du coup j'ai eu vraiment envie de composer cette chanson en me disant, je pense que Oxmo est assez ouvert d'esprit et pour voir ce dont il s'agit et qu'est-ce qu'il a à proposer. Et en fait, ça a été magique. Et voilà, il a accepté tout de suite, il nous a posé un hyper beau texte et ça correspond, ça sublime la chanson.
Sur un titre en plus qui porte le titre de Lilith, est-ce que pour vous Lilith ce serait comme une sorte de pièce matricielle des répressions ou malédictions qui pèseraient sur les femmes depuis la nuit des temps?
Pour moi, j'ai titré la chanson Lilith parce que c'est la première femme à qui on a donné faute, avant même Ève, à qui on a aussi donné faute, mais aussi parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de réparation, où j'aime bien cette idée de réparer son présent. En retournant dans le passé. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction, j'aime beaucoup tout ce qui est histoire fantaisiste, de fées, blabla, et tout, de voyage dans le temps. Et mon idée, c'était et si j'arrivais à réparer un mal qui avait fait dans ma famille, et si j'étais arrivée à convaincre quelqu'un de faire la bonne chose, et comment est-ce que ça aura un impact sur mon présent et sur mon avenir, en fait. Et ça parle de ça, pardon.
Donc, il y a vraiment, vous en parliez aussi tout à l'heure, ce côté du pouvoir empathique qui s'exerce à travers vos musiques et du fait de vouloir prendre vraiment soin de vos spectateurs ou des gens qui écouteront vos morceaux.
Oui, tout à fait. J'essaie de faire hurler le public en mode exorcisme, se défaire de tous ces nœuds, si ce n'est qu'un seul nœud. Et je trouve que le public, il aime ça, en fait, en général. Et j'arrive à bousculer des gens qui me disent toujours à la fin de concert, en fait, je viens de découvrir, ah, mais je vous connaissais pas, c'est pas le genre de musique que j'écoute en général, mais c'est vraiment cool, ça m'a fait ceci, ça m'a fait cela, ça m'a rappelé ceci, ça m'a rappelé cela. Et pour moi, une des phrases que j'adore, c'est de Toni Morrison, une autrice afro-américaine, il me semble que c'est dans Beloved, elle a une phrase où quelqu'un lui demande, ah, à quoi ressemble l'amour? Et elle dit, on dirait que toutes les choses que tu avais perdues te reviennent tout d'un coup. Et j'aime quand les gens ils sortent de concert en me disant des choses comme ça. Ah, il y a plein de choses qui me sont venues tout d'un coup. Je dis, yes, yes, je suis donné de l'amour.
Bah oui, comme un surgissement de ces émotions profondément enfouies, qui,
Oui.
grâce à la musique, permettent justement de ressurgir pour
Oui.
embrasser. Pour clore cet entretien, nous allons diffuser le titre Tears, qui est assez un titre presque trip-hop, qui m'a fait penser aussi au titre Tears Drop de Massive Attack. Est-ce que vous pourriez nous
Oh.
dire un mot sur ce titre-ci?
J'en parlais dans un podcast récemment avec d'autres chanteuses où on parlait de nos morceaux qui, à la base, étaient des maquettes. Et Tears, c'est vraiment une maquette. Et à la fin, on s'est dit, ah, c'est dommage d'avoir un album avec autant de sorcières et de ne pas avoir 13, 13 titres.
Excellent.
Et j'ai sorti cette maquette où je dis, ça rentre vraiment dans ce répertoire parce que il s'agit de ne pas comprendre pourquoi est-ce que j'étais dans un moment où je comprenais pas pourquoi je pleurais et il fallait vraiment que je creuse pour comprendre qui m'avait donné cette tristesse, qui m'avait offert cette peine et qu'est-ce que j'avais à en faire et comment est-ce que je pourrais la réparer, même si c'est pas comme nos parents nous offrent très gentiment des peines, des traumatismes transgénérationnels. Il y a l'épigénétique qui vient de sortir comme une vraie discipline dans la science où des traumatismes pourrait carrément être au sème tellement fort qu'ils s'inscrivent dans l'ADN de quelqu'un et cet ADN ils se transmettent à l'enfant. Donc, in utero. Et je trouve ça incroyable. Et du coup, j'avais écrit cette chanson en pensant à ça, en pensant à ces larmes qui sortent. Et en fait, on ne sait pas d'où elles viennent et on sait juste qu'il faut réparer.
Eh bien, pour réparer nos âmes blessées, attristées par des histoires héritées effectivement de nos ancêtres qui continuent à nous poursuivre et nous hanter, eh bien, exorcisons nos démons à la Cigalière le vendredi 27 janvier à 20h30 pour la 12e édition du Festival des Chants d'hiver et de femmes avec l'artiste Mélissa Lavo, que c'est un plaisir de retrouver. Après le Printival, il y a quelques années, maintenant que nous retrouvons sur la scène ici, donc c'est très chouette.
Oh, merci beaucoup. Hâte d'y être.
Ah
Et j'espère que
oui.
vous irez aussi au concert de Laura Kahn.
Oui, c'est vrai.
Kahn.
Rocken, et il y aura aussi L'Aïe Grosse le samedi soir,
Et
donc.
là, il y a les gros. Ah ouais, c'est vrai. Il y a eu trop un gros, super ouf. Ben oui, donc le festival a une super programmation. Je conseille à tout le monde de squatter là pendant les
Avant les
300
trois jours.
Ouais.
Bien, grand merci Mélissa Lavo.
Merci beaucoup à vous.
Et on se retrouve donc sur la scène de la Cigalière.
Vendredi.
Merci.
Merci.